Avant de me lancer dans mon récit sur la transition, parce que c'est de ça que je vais vous parler, le vélo c'est un levier de transition, je me présente d'abord, je suis Stijn van Oosteren, je suis franco-néerlandais, j'ai grandi aux Pays-Bas, au paradis du vélo, où quasiment tout le monde fait du vélo, c'est pas un sujet de discussion là-bas, donc c'est très drôle pour moi d'en faire un sujet de discussion en France, et je suis en France depuis 1996, où je travaille en tant qu'attaché diplomatique auprès de l'UNESCO pour les Pays-Bas. Donc ça, c'est mon travail professionnel qui n'a rien à voir avec le vélo. Et accessoirement, j'ai monté une association pour changer le monde, pour changer la région parisienne. Juste pour que vous me situiez un petit peu en termes de contenu. Alors, de quoi voulais-je vous parler? Quand on veut changer le monde, et c'est mon cas comme Vélocité, moi, je veux simplement que les enfants puissent partout se déplacer en sécurité à vélo. C'est tout. Voilà, c'est vraiment tout. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on propose ça, cette simple idée, ben en fait, on a toujours ça. Ouais, mais vous êtes un dictateur, vous êtes un ayatollah vert, vous voulez imposer votre style aux autres, etc. Et moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est comment est-ce possible? Et si je veux changer le monde, il faut que je comprenne ça pour le surmonter. Alors, mon analyse, c'est que d'abord, j'ai écouté les débats pour que les gens me disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Expliquez-moi. Et ça, c'est là-dedans. C'est la conversation sur le vélo en France actuellement. Avec voilà, plus ou moins d'humour, parce qu'il faut quand même rigoler, sinon c'est un peu difficile. Mais moi, je pense que cette réaction-là vient d'un conflit que nous avons entre deux réactions possibles au changement. Et la première réaction, elle est très classique, tout le monde la connaît, c'est je peux pas. Ah, je peux pas faire de vélo, c'est pas possible, parce qu'il y a la pente, parce qu'il pleut, parce qu'on n'est pas aux Pays-Bas que je sache, etc. Et puis il y a une autre réaction qui est beaucoup plus intéressante et que je voudrais réveiller, et c'est cette réaction qui dit ben, qui ne regarde pas la rue où nous sommes ou s'il pleut, mais qui regarde là. Qu'est-ce que je veux moi? Pour mon environnement, pour mes enfants, pour ma qualité de vie. Par exemple, moi je veux que mes enfants puissent aller partout à vélo en sécurité. Et le problème, c'est qu'entre ces deux réactions possibles, ben, il y en a toujours un qui gagne, quasiment toujours. Alors devinez lequel? Mais c'est celui. Je ne peux pas. Il est tellement grand, tellement puissant, qu'il écrase la possibilité de se dire, ben, tiens, je voudrais autre chose, comme avec Vélocité par exemple. On a tellement l'habitude de dire je ne peux pas faire de vélo qu'on finit par croire qu'on ne veut pas faire de vélo. Et ça, c'est très drôle et je vais vous le montrer. Un jour, je suis allé dans une salle pour parler de vélo. Ça m'arrive très souvent, des collectivités m'invitent pour justement expliquer comment rendre la ville cyclable. Et donc, quand je viens, les gens savent que je vais parler de vélo. Et avant même que je ne puisse ouvrir ma bouche, il y a une dame qui se lève et qui me dit, Monsieur, je ne veux pas faire de vélo parce que c'est trop dangereux et tout le monde ne peut pas faire de vélo. Ouh, ça commence bien cette soirée-là, ça va être chaud. Et plutôt que de la raisonner, ce qui est très difficile parce qu'on n'est pas raisonnable du tout, je l'ai écoutée. J'ai demandé, mais madame, est-ce que c'est à ce point-là que vous ne voulez pas faire de vélo? Elle me dit non parce qu'il y a trop de voitures, il n'y a pas assez de pistes cyclables, il y a... Ah, ça c'est intéressant ce que vous dites là. Il n'y a pas assez de pistes cyclables. Donc ça veut dire que s'il y avait assez de pistes cyclables, vous voulez faire du vélo. Et elle m'a dit, mais oui, bien sûr. Parce que le problème pour moi, ce n'est pas les vélos. Je ne déteste pas les vélos. Mais je ne veux pas en faire ici en ville. Moi, je veux en faire chez moi, à la campagne, où je suis tranquille, où il y a moins de voitures, où je suis protégé. Sur des voies vertes, des voitures. Mais ici, regardez, dans ma ville, avenue de la République, il y a deux fois deux voies motorisées, il n'y a pas de piste cyclable. Quand je vais à la gare, je ne peux même pas garer mon vélo en sécurité. Comment voulez-vous que je fasse du vélo dans une ville comme ça? Et comme ça, en quelques phrases, elle dit tout ce qu'il faut faire pour rendre la ville cyclable. C'est ça qui est drôle. Alors qu'il y a 5 minutes, elle me disait, je ne veux pas faire de vélo. Alors comment est-ce possible? C'est tout simplement parce que je lui ai demandé qu'est-ce que vous voulez? Et quand vous voulez, quand vous demandez aux gens ce qu'ils veulent, en fait, ils vont toujours vous décrire une société cyclable. Alors, il y a un deuxième exemple avec un collègue un jour. Je lui parlais du vélo. Je lui ai dit, mais tiens, toi qui viens au travail en voiture, pourquoi tu ne viendrais pas à vélo ? Elle me dit, ah, je ne peux pas. C'est-à-dire, ben, moi j'habite trop loin. Ben, c'est-à-dire, bah, 5 km. Ben, 5 km, ça fait, à tout casser, 20 minutes de porte à porte, sans avoir besoin de te garer, parce que tu peux te garer partout. Et là, il dit, ben, en fait, je n'y ai jamais vraiment pensé. Je dis, ben, ça tombe bien, parce que là, on y pense. Et si demain, tu venais au travail à vélo ? Il dit, ben, en fait, je ne peux pas, parce que même si j'ai un vélo, il est à plat. Je dis, ben, écoute, tu peux gonfler les pneus. Il dit, ah non, je ne peux pas, parce que je n'ai pas de pompe. Et c'est vrai, hein, c'est une histoire vraie. Et je dis, ben, écoute, moi j'ai une idée, moi j'ai une pompe, et je te prête cette pompe. Tu essayes, tu gonfles tes pneus, tu viens au travail à vélo, et si ça te plaît, tu continues, sinon tu t'arrêtes. Alors devinez ce qui s'est passé. Ouais. Il est devenu vélo-taffeur. Il va au taf, au travail, à vélo, et il n'est jamais revenu en arrière. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. On parle toujours du vélo comme problème, mais on ne parle jamais du fait que quand les gens font du vélo, ils n'arrêtent plus. Il doit y avoir un truc dans le vélo. Et ce que ces deux exemples montrent, c'est à quel point on est enfermé dans le « je ne peux pas ». Cette idée qu'on ne peut pas et que, voilà, on ne se pose pas la question « est-ce que je veux ? Est-ce que je peux le faire ?» Et le problème, c'est que pour lui, ça a été compliqué de l'accompagner vers ce changement, pas parce qu'il n'avait pas de pompe, pas parce qu'il n'y avait pas de piste cyclable, mais parce qu'il ne se posait pas la question « qu'est-ce que je veux au fond de moi ? Qu'est-ce qui est important pour moi ?» Si vous ne vous demandez pas si ça peut être votre mode de transport idéal, si ça peut être votre moment de qualité dans votre journée, aucune piste cyclable ne vous servira. Aucune pompe ne vous servira parce que vous n'y penserez même pas. C'est ça le problème. C'est dommage parce que quand vous partez en vacances, quand les Français partent en vacances, qu'est-ce qu'ils vont, comment ils vont se déplacer ? Est-ce qu'ils vont louer un 4x4 pour faire un détour ? Non, ils vont louer des vélos. Pourquoi ? Ben parce que c'est agréable, parce que c'est pratique. Ben alors, pourquoi ne pas le faire 365 jours par an ? Pourquoi ne pas être en vacances 365 jours par an ? Ça, c'est mon projet pour la France. Et à vous de le dessiner. Voilà. Et le problème, c'est que, en fait, il y a un philosophe que je voudrais citer qui a dit que nul vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Si vous ne savez pas, si vous voulez, si ça vous intéresse, ben en fait, aucun discours sur le vélo ne va l'aider. Au contraire, ça va peut-être même l'énerver. Ça va finir par lui faire dire « Ah, mais des ayatollahs ». Par contre, si vous mettez un cap, si vous imaginez votre vie autrement, là, ça va vous aider. Et c'est ce discours-là que je vais essayer de vous apporter. Alors, pour que ça prenne dans l'esprit, j'ai une méthode que j'ai développée à partir de ces constats que j'ai faits dans ce livre-là, c'est-à-dire ces énormes débats sur le vélo avec « je ne peux pas », « je veux », etc. Comment sortir de là ? Alors, il faut tout simplement poser les bonnes questions. Il faut juste poser les bonnes questions, et c'est ce qu'on ne fait pas aujourd'hui dans le débat sur le vélo, ni sur la transition écologique d'ailleurs. On pourra en parler après. Alors, quand on ouvre un débat sur le vélo, c'est toujours comme ça. Est-ce que vous pouvez faire du vélo ? Alors, c'est une question totalement erronée, il ne faut jamais la poser parce qu'en fait, ça déclenche tout de suite « je ne peux pas ». Je ne peux pas parce que j'habite trop loin. Je ne peux pas parce que je dois de temps en temps transporter un petit meuble chez mon fils. Je cite ce que les gens me disent. Je ne peux pas parce que je transporte du matériel de chantier. Mais attendez, est-ce que vous faites ça tous les jours pour chaque trajet ? Non ? Dans ce cas-là, on va changer les questions. Donc plutôt que de poser la question « pouvez-vous faire du vélo ?», on va demander « quel trajet faites-vous dans la journée ?». Et si vous posez cette question-là, comme par magie, vous allez découvrir que vous faites en moyenne, tous, en moyenne, 4 trajets par jour. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a semblé bizarre. Je dis, mais attends, moi, 4 trajets, ça ne fait pas beaucoup. J'ai l'impression de bouger tout le temps. Et en fait, j'ai compté un peu et j'ai compris qu'effectivement, ça fait à peu près 4 trajets par jour. Voilà, on va au travail, ensuite à la cantine, et puis retour à la maison, etc., à peu près. Ensuite, on va demander pour chaque trajet, qu'est-ce que je transporte et combien de kilomètres je fais ? Ou combien de mètres ? Voilà, c'est la deuxième question. Et là, de nouveau, comme par magie, vous allez découvrir que là, très souvent, vous faites de petits trajets Et très, 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 très souvent, la plupart du temps, vous ne transportez rien d'autre que vous-même. Voilà, tout votre corps, c'est tout. Voilà, donc, et pour vous donner les chiffres, parce que je ne vous raconte pas des salades, c'est que si vous vous mettez au bord de n'importe quelle route dans votre agglomération, et vous allez regarder qui est dans ces voitures, vous allez voir que dans 85% des cas, il n'y a qu'une personne à bord. Donc ça veut dire que toutes ces personnes-là, ils n'ont pas pris la voiture parce qu'ils devaient transporter 4 enfants, plus leur grand-mère, plus l'armoire normande, plus l'écran plat géant. Pas du tout, c'est juste parce qu'ils avaient la voiture devant la porte et ils ne se sont pas posé la question « qu'est-ce que je veux moi pour ma vie ?» Et puis, si vous restez au bord de cette même route, vous allez voir, si vous potassez un petit peu les statistiques, et c'est ce que j'ai fait pour vous, que dans 40% des cas, les trajets sont inférieurs à 3000 mètres. Ça veut dire 12 minutes à vélo de porte à porte. Donc, conclusion, ça veut dire que le « je ne peux pas » ne tient pas une seconde. C'est complètement faux, mais bien sûr que vous pouvez. Le problème, c'est qu'on n'est pas rationnel. Parce que si on était rationnel, on mettrait immédiatement en place une politique totalement vélo. Ben, déjà pour ces raisons rationnelles-là, mais on n'est pas rationnel là. Donc, ce n'est pas en expliquant tout ça que des maires de France vont dire « Ah oui, mais vous avez raison, on va tout de suite arrêter de finir le contournement de Montpellier, on va tout de suite mettre des pistes cyclables absolument partout, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Il faut autre chose. Et c'est quoi cette autre chose ? Ben, c'est le « je veux », c'est le désir. C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Et pour ça, il faut changer les questions qu'on se pose. Alors, qui d'entre vous a déjà entendu dire par quelqu'un « je ne peux pas faire de vélo parce que j'ai peur ?» Voilà, beaucoup, plus de la moitié. Alors, c'est normal parce que c'est la première raison pour laquelle les gens ne font pas de vélo. Et le problème de la peur, c'est qu'elle nous coupe de notre créativité. Parce que la peur, en fait, ça vous fait dire « je ne peux pas faire de vélo ». Et une fois que vous avez dit ça, vous n'allez pas imaginer des moyens de le faire quand même. En fait, vous avez éteint votre imagination. C'est terrible parce que du coup, vous restez là où vous êtes. Vous n'avancez pas. Et pour réveiller l'imagination, c'est ça que je veux faire ce soir, pour imaginer cette société différente, en fait, il faut que les gens aient envie de faire autre chose. C'est quand on a envie d'autre chose qu'on commence à imaginer. Là, on commence à travailler, comment on pourrait faire, si, cela. Alors, il y a Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, il a écrit un super livre, et il a dit une très belle phrase sur ce bateau-là, il a dit, si vous voulez construire un bateau, il ne faut pas dire aux gens comment le faire. Avec tel bois, tel clou, telle méthode, etc. Non, il faut juste faire naître le désir de la mer. Parce qu'une fois que les gens désireront la mer, ils vont fabriquer ce bateau. Vous n'avez même plus besoin de leur expliquer. C'est le désir qui nous porte. Et moi, je pense que c'est la même chose pour la société cyclable. C'est vraiment ça qui va nous faire. Il ne faut pas expliquer comment le faire, avec quelle piste cyclable, quel parking. Les gens, ce n'est pas ça qui les fait bouger. Ce qui les fait bouger, c'est autre chose. C'est une société agréable. Donc, pour faire naître ce désir-là, il faut poser des questions différentes. Il ne faut pas demander est-ce que vous pouvez faire du vélo, parce que cette question, c'est vouer à l'échec. C'est demander des problèmes. Donc, on oublie cette question et on pose une autre question, c'est quelle rue voulez-vous ? Parce que moi, je vous parie, quand on demande aux gens dans quelle ville voulez-vous vivre au fond de vous-même, ils vont vous décrire la ville cyclable. Et c'est énorme ce que je viens de vous dire. Et pour vous le prouver, on va poser cette question-là. Quelle rue voulez-vous ? Alors, je vais vous faire une expérimentation. Voici la même rue, mais en 70 et en 2015. C'est donc deux versions de la même rue. Alors, qui préfère la deuxième version de droite ? Allez. Ok, très bien. Mais c'est... Alors donc du coup, c'est une bonne nouvelle parce qu'il se trouve, je n'ai rien dit. Pourtant, cette image-là, c'est là qui fait le mieux faire du vélo. Là, c'est horrible. Personne ne fera du vélo ou très peu de gens, alors que là, les gens vont très facilement faire du vélo, beaucoup plus facilement que là. Alors qu'est-ce qu'elle a cette rue ? Pourquoi les gens veulent ça ? C'est ça qu'il faut. Vous allez me dire, oui, mais monsieur, c'est évident, c'est plus calme, etc. Il faut aller au fond des choses. Il faut bien comprendre scientifiquement pourquoi les gens aiment ça. Alors pour le savoir, c'est très simple, il faut juste regarder, et les aménageurs le sauront, en fait les annonces des promoteurs immobiliers. Parce que les promoteurs immobiliers, ce sont des entrepreneurs qui fabriquent quelque chose qui coûte très cher, c'est-à-dire l'immobilier, et pour vendre ça, ils payent des gens pour savoir ce que veulent les gens au fond d'eux-mêmes, la ville dont ils rêvent, la rue dont ils rêvent. Ensuite, ils dessinent, et ensuite, ils collent l'objet immobilier dedans, et ensuite, ils montrent ça aux gens en espérant qu'ils vont acheter l'immeuble. Voilà. Je ne dénonce rien du tout, ça s'appelle la publicité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces images-là, et c'est toujours pareil, vous voyez toujours la même chose. D'abord, l'objet immobilier en gros plan, tada, notre produit, et ensuite, de la verdure, des arbres, des piétons, des vélos et zéro voiture. Zéro place de parking, ni même des parkings, rien. Et ça veut dire que donc ça, c'est ce que veulent les gens. Ah, mais c'est très bien. Parce qu'en fait, il se trouve que dans des rues comme ça, avec très peu de trafic, comme d'ailleurs ici devant l'Institut, il fait très bon faire du vélo. Conclusion, quand on pose la bonne question aux gens, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez comme rue, comme ville, ils vont vous décrire une ville cyclable et vous n'avez même pas besoin de parler de vélo. Je n'ai pas besoin d'être un ayatollah du vélo. J'ai juste besoin de demander qu'est-ce que vous voulez. Et c'est quand on se rend compte de ça, si je suis si passionné par le sujet, je dis, mais c'est pas possible qu'on me traite d'ayatollah vert alors que moi je viens vendre du bonheur. Voilà. Alors il y a un troisième élément, c'est que la question est-ce que vous pouvez faire du vélo, en fait vous enferme dans le présent. Parce que les gens vont dire ah non je ne peux pas. Mais quand on l'écoute bien, en fait, ils ne disent pas « je ne pourrai jamais faire du vélo, je ne veux pas faire du vélo », mais ils disent « je ne peux pas faire du vélo ici, dans le présent, dans telle rue que j'utilise aujourd'hui et dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui ». Donc, mais si on s'arrête à ce constat-là, et c'est ce qu'on fait dans des conversations, ben on ne va jamais imaginer autre chose. Si on ne pense pas au futur, par exemple, si on imagine une piste cyclable, ben voilà, entre-temps, c'est à Paris, ils ont créé une piste cyclable, c'est la même rue, hein, c'est la même situation, ben on peut faire autrement. Donc je pense que pour faire évoluer notre mentalité, pour ouvrir l'esprit, pour créer de la place pour le vélo et surtout la ville à vivre dans l'esprit, ben il faut introduire la dimension de l'avenir dans nos discours. On ne le fait pas assez, on est toujours présent. Alors pour ça, il faut poser une autre question. Il ne faut pas demander est-ce que vous pouvez faire du vélo, parce que ça déclenche le « je ne peux pas ». Donc on va poser une autre question, et c'est celle-là. Et c'est la plus belle question qui existe. Il y a une question, quel avenir voulez-vous ? Il y a une question qui est plus belle et c'est, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans la vie ? Mais en fait, cette question déclenche cette question. Parce que quand vous posez cette question-là, vous prenez tellement de recul que vous allez voir ce qui est vraiment important pour vous. Parce que qu'est-ce qui est important pour vous ? Alors, je n'ai pas besoin de faire ce travail-là parce que les études existent déjà. Quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, ils disent tous la même chose. Ils disent, je veux protéger la biodiversité. Ben c'est normal, parce que nous sommes nous-mêmes de la biodiversité. On est bien habillés et tout ça, mais en fait, on est des organismes vivants qui mangent de l'herbe, qui font caca, etc. Donc, protégeons ça. Déjà, c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, on veut manger des produits sains. On ne veut pas manger, excusez-moi, de la merde. On veut des produits qui soient produits localement. C'est ce que veulent les gens quand on les interroge et quand on prend du temps. Et ce que veulent les gens aussi, c'est que les enfants n'auront pas trop de problèmes dans l'avenir. Que dans quelques années, il va falloir se taper sur la figure parce qu'il fait tellement chaud qu'on n'a plus d'eau, qu'on n'a plus d'électricité, que les forêts ont brûlé, etc. On veut juste une société stable, autonome, qui ne soit pas trop dépendante des énergies incertaines. C'est ça que veulent les gens. Et pour vous faire vivre cette volonté-là, je vous propose une expérience mentale. Imaginez que les futures générations soient déjà là, c'est-à-dire les enfants qui vont naître en 2050 et qui auront 30 ans en 2080, quand la température sera 2,5 degrés, etc. Peut-être en 2150, peu importe. Imaginez qu'ils soient déjà là. Et imaginez qu'ils voient comment nous vivons, comment nous mangeons, comment nous produisons, comment nous nous déplaçons. Et imaginez qu'ils puissent nous parler déjà. Quel serait leur message pour nous ? Alors moi, je pense que ce message se tiendrait en quatre lettres. S-T-O-P, stop. Arrêtez de manger comme vous le faites aujourd'hui, en faisant venir des choses de très loin. Arrêtez de vous déplacer comme vous faites aujourd'hui. Le transport, c'est le premier secteur polluant. Si vous continuez comme ça, Nous, on va pas, quand on arrive sur Terre, on ne pourra plus vivre. Pourtant, c'est vous qui nous avez fabriqués. Voilà, j'ai mis des visages dessus pour que cette perspective, parce qu'ils vont vraiment naître, hein, ils vont vraiment arriver, ils vont voir le bordel qu'on leur a laissé. Donc c'est vraiment une responsabilité que nous avons. Moi, je pense que nous sommes sensibles à ce discours-là. Et c'est aussi parce qu'on n'a pas envie que dans 50 ans, on parlera de nous en disant « Ah, Pépé et Mémé, on déconne quand même. Hein. » Parce que Pépé et Mémé, c'est nous. Dans 50 ans, nous, on sera les vieux qui, à l'époque, ils savaient très bien ce qui se passait, mais ils ne voulaient pas changer parce que je ne peux pas. Parce qu'on n'est pas en Pays-Bas, parce qu'il ne pleut pas, et parce que la route est pentue. Alors, pour vous donner ce courage et cette énergie de le faire quand même et de dépasser cette crainte, je vais citer un philosophe que j'aime beaucoup, qui m'a fait venir en France par son inspiration, Jean-Paul Sartre. Il a dit la belle phrase que vous avez sans doute tous lue dans votre manuel scolaire, « L'existence précède l'essence ». J'adore cette phrase parce que c'est la phrase de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'abord on existe, pof, on est là, on est jeté dans l'existence, et après, rien ne nous dit comment nous devons être. Rien ne m'a dit de venir ici vous parler. Je ne savais pas il y a quelques années que je serais là aujourd'hui. C'est moi qui ai inventé ça. Pour vous tous, c'est la même chose. Moi, je pense que pour la société cyclable, c'est la même chose. Rien dans une ville ne la destine plus qu'une autre à devenir cyclable ou pas. Ça dépend entièrement de votre capacité en tant que citoyen, en tant que technicien et en tant qu'élu, d'écouter ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Est-ce que vous voulez une ville agréable qui soit accessible à l'enfant, où une personne âgée n'a pas besoin d'avoir peur à traverser, où on vit plus localement, où on protège la biodiversité? Voilà. Si vous écoutez vraiment ça, la société cyclable, c'est la conséquence logique. C'est une des conséquences logiques. Alors, ça reste difficile, parce que la transition, on déteste tout ça, parce qu'on est, voilà, pour d'autres raisons que je ne développerai pas. Et donc, je veux vous donner quelques astuces pour nous aider à nous projeter dans une future différente, notamment avec vos clients, parce que si vous accompagnez des clients pour dessiner autre chose, ils vont vous dire « Ah, ça, on ne peut pas, c'est trop radical. » Alors, comment faire en sorte que des gens puissent admettre que votre rue puisse être un rectangle jaune doux sur lequel les enfants peuvent tomber sans se faire mal, où on peut faire du vélo, où on peut traverser sans avoir peur, où une personne âgée peut faire des courses, où tout le monde est le bienvenu, sauf la voiture. Comment faire ça? Alors, première astuce, c'est que, et ça a l'air très très simple, mais c'est très compliqué, il faut savoir choisir entre le beurre et l'argent du beurre. Alors, le beurre, c'est ça. Vous l'avez bien vu, c'est deux fois exactement le même angle, le même quartier, mais toujours avec, ça c'est les Pays-Bas, ça c'est le passé, souvent la France aujourd'hui, ça c'est 50 ans plus tard. Alors, pour avoir ça, si vous dites « Ouais, je veux le beurre, j'aime bien !» Mais dans ce cas-là, il faut juste payer l'argent du beurre. Alors, c'est quoi l'argent du beurre? L'argent du beurre, c'est il faut juste accepter qu'on ne puisse pas traverser le quartier vite en voiture. C'est tout. Il faut faire le tour. Vous pouvez rentrer dans le quartier, mais si vous avez des choses à faire, mais pas pour vroom la traverser comme sur une autoroute. Si vous acceptez ça, ben vous allez voir fleurir le business, les enfants, la vie, la pollution va baisser, tout va venir ensuite. Mais c'est l'argent à payer. Il faut faire des choix, première chose. Deuxième chose, il faut faire rêver. Si vous voulez que ça change, que cette horrible autoroute au bord du fleuve change, il ne faut pas dire aux gens « Est-ce que vous voulez que je vous enlève cette autoroute ?» Non, parce que vous savez ce que les gens vont vous dire ? Ah non, 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 vous ne me la touchez pas, parce que comment je fais pour aller récupérer la bretelle pour aller travailler ? Même un fumeur qui va chez les médecins, quand le médecin avait dit « Je vais vous confisquer votre paquet de cigarettes », est-ce que vous pensez que le fumeur sera d'accord ? Non, non, il dit « Non, 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 peut-être la semaine prochaine, mais pas aujourd'hui, c'est toujours comme ça. » Donc, comment amener le fumeur à accepter d'arrêter de fumer et de faire autre chose ? Mais en fait, il faut montrer ce que ça peut donner. Voilà, vous montrez ça. Si vous dites, est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous donne une pelouse, qu'on recouse la ville à son fleuve, qu'on puisse le traverser, qu'on puisse se détendre, qu'on puisse développer la nature. Les gens, ils vont vous dire, ouais, je veux bien, dites-moi comment on peut faire. Et là, c'est vous qui venez avec votre compétence, CAU, etc. Vous allez expliquer comment le faire. Mais il faut commencer par un rêve. Comment amener les gens à s'imaginer un monde différent? Il faut changer les questions que nous nous posons. Voilà, je vous ai donné trois exemples, je vais en rajouter un quatrième. Ça, c'est Utrecht, une ville, c'est la ville du vélo aux Pays-Bas, avec Amsterdam, qu'il y avait des canaux, parce qu'aux Pays-Bas, il y a beaucoup d'eau dans le sol, et donc on avait creusé des canaux pour évacuer l'eau. Mais à un moment donné, la philosophie moderne, c'était la voiture plus le commerce. Donc il fallait tout donner à la voiture. Voilà, ça a été comme ça, je ne commente pas. Et en fait, donc, ils ont comblé le canal pour rajouter entre 6 et 8 voies de circulation. Et donc, ils sont passés de 6 à 12 voies de circulation pleine ville. Et quelques années plus tard, ils se sont dit, mais est-ce qu'on a bien fait? Parce qu'attends, c'est quand même un peu puant de notre façade, les enfants ne peuvent plus jouer dehors, est-ce qu'on ne peut pas changer? Ils y sont arrivés. Et vous savez comment ils y sont arrivés? En posant les bonnes questions. Ils n'ont pas fait comme on fait souvent. Souvent, on va dire, oui, mais où iront toutes les voitures? Mais si vous posez cette question-là, vous allez obtenir la mauvaise réponse, parce qu'en fait, il n'y aura plus autant de voitures. Parce que la vraie question n'est pas où iront les voitures, mais pourquoi y a-t-il autant de voitures? Et ils ont découvert que la réponse à cette question, elle est dans l'image. Il y a autant de voitures là parce que vous leur donnez un monde dans lequel on peut se déplacer uniquement en voiture. C'est pour ça que s'il y a tant de cyclistes aux Pays-Bas, ce n'est pas parce qu'ils ont le vélo dans le sang, mais c'est parce que les routes ne ressemblent plus à ça. Et donc, ils ont dit, oh, donc ça veut dire que si on enlève ça, si on fait revenir le canal, les gens vont se déplacer autrement. Eh bien oui, ben, ok, allons-y. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, les gens se déplacent en bateau, planche à voile, ils marchent, ils font du vélo, toujours de la voiture. Oui, il y a toujours du stationnement avec la route, mais pas le tout voiture. Ils sont sortis du tout voiture. Si vous voulez amener les gens à se poser des questions, à se projeter dans un autre monde, il faut mettre la main à la poche. Il faut changer l'aspect de la rue. Ce qu'on fait beaucoup en France aujourd'hui, c'est qu'on crée des rues aux écoles. C'est-à-dire, on dit, c'est une rue, il y a des enfants, il faut les protéger, on va mettre des barrières, on va arrêter l'accès motorisé. Ça a l'air pas mal, avec des gros pictos qui disent, c'est que pour les piétons, mais ça ne marche pas super bien. Pourquoi? Parce que en fait, on a laissé en place le profil du grand serpent noir dangereux, le GSND. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est le grand serpent noir dangereux qui a mangé les enfants, qui a mangé la vie et qui a plaqué la vie contre les façades et qui a tout réservé à la voiture. Quand vous êtes sur cette voie-là, ces personnes qui sont en train de marcher là, ils ont quand même dans leur tête une petite voix qui dit « Mais attends, on est quand même sur la route, il faut quand même qu'on aille vite sur le trottoir. » J'étais dans des villes où ils ont piétonnisé leur espace et les gens, ils continuaient à traverser sur les clous, tellement on est conditionné. Donc pour faire ça, en fait, il faut mettre la main à la poche et réaménager l'espace pour que ce soit le piéton qui se projette dedans et plus l'automobiliste. Là, c'est l'automobiliste qui est frustré parce qu'il voit une route qui est faite pour lui, mais où il ne peut pas aller. Là, c'est l'inverse. Là, c'est le piéton qui voit une voie pour lui et qui va donc y aller très facilement. Et l'automobiliste, il a tout de suite compris qu'il est dans un salon. Si vous voulez amener les gens à imaginer un monde différent, il faut réactiver l'envie de ce monde. Imaginez que les routes en France soient comme ça. C'est une autoroute qui est totalement... C'est une photomontage parce que ça n'existe pas. Imaginez une route, une autoroute pleine de boue. Ce serait dans les journaux partout. Imaginez en France que les routes soient comme ça, complètement inondées de boue. Est-ce que vous pensez que les gens feraient de la voiture régulièrement? Ah non, ils arrêteront tout de suite. Eh bien, c'est pour ça que les gens ne font pas de vélo beaucoup en France, mais parce que les pistes sont comme ça. Voilà, dès qu'il y a un peu de pli, pouf, il y a de la boue partout. Alors je suis sûr qu'il y a au moins une personne dans la salle qui pense secrètement, ah ouais, mais ça c'est quand même un peu exceptionnel que vous avez trouvé. C'est quand même pas toutes les pistes cyclables qui vont s'inonder de boue. Nous, on est en pleine ville. Oui, mais pour ça, on peut faire confiance aux aménageurs en France pour trouver des obstacles, pour créer des pistes cyclables totalement impraticables. Et je vais vous donner un exemple parmi d'autres. En fait, j'ai sur Twitter, en fait, j'ai assemblé un fil avec le hashtag « La piste dangereuse ». La piste dangereuse. Vous allez trouver ça, mais 1000 exemples. Parce que, voilà, il y en a partout. Donc, si on veut que les gens fassent du vélo, il faut tout simplement créer des pistes cyclables comme les autoroutes. Et là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, on a créé des pistes cyclables comme on fait la route pour les voitures et on a fait des routes pour les voitures comme on fait les pistes cyclables. C'est-à-dire, il faut s'arrêter, chaque fois, il faut faire attention aux rails, il y a des discontinuités. Est-ce que vous pensez que dans un monde comme ça, les gens vont se déplacer en voiture? Ah non, non, non. Ils vont très vite se mettre au vélo. Voilà, donc il faut juste appliquer les bons standards de qualité et le reste suivra. Ça déclenchera le désir de se déplacer à vélo, qui est déjà là, mais en fait, on l'empêche de sortir. Quand on est né, on veut bouger, on aime ça. Si vous voulez amener les gens à se projeter dans un monde différent où ils sont plus actifs, en fait, il faut changer le focus. Tout le monde connaît des escaliers comme celui-ci, avec un escalier actif et puis des escalators. Alors, comme on ne fait rien, il n'y a pas de mise en scène, ben les gens, comme on est fainéants par nature, ben on prend l'escalator. Et puis le milieu, ça reste, il n'y a que moi, parce que moi je suis obsédé par la mobilité active, donc moi, il n'y a que moi et les enfants qui sont là, et puis là, c'est les gens normaux. Donc comment faire en sorte que les gens bougent un peu plus et deviennent plus épanouis? Ben en fait, on va mettre un petit peu de couleur. Là, par exemple, on a laissé l'escalator en place parce que voilà, si vous n'avez pas envie ou si vous êtes fatigué ou si vous êtes en situation de handicap, on va laisser ça en place. Et donc là, les gens, ils vont faire ça. Pensez aux cages d'escalier. Les cages d'escalier, il faut les chercher. Moi, quand je vais dans un hôtel, première chose, je vais chercher où est la cage d'escalier. Ben, en fait, on ne la trouve pas. Si on les met en valeur avec de l'art, avec une belle piste comme ça, les gens, ils vont finir par l'utiliser. Appelez-le parcours de santé. Et là, les gens, ils vont dire, ah tiens, parcours de santé, tiens, ben, j'y vais. C'est ça qu'il faut faire pour la société entière. Si vous voulez que les gens se projettent dans un autre avenir, il faut leur montrer qu'on n'est pas coincé dans le présent. Le présent peut être oublié. Le présent, c'est celui-là. En fait, aujourd'hui, on laisse le milieu de l'espace public au plus dangereux. Très bizarre, parce que là, c'est une école avec plein d'enfants. Et ben, le milieu de l'espace, on l'a laissé aux voitures et en fait, on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. Pourtant,
c'est tout à fait possible. Et si vous voulez vraiment demander un bon conseil, comment changer le monde, demandez à un enfant. Parce qu'un enfant n'est pas comme nous, inhibé par cette idée qu'il faut d'abord le grand serpent noir dangereux qui va tout manger et après on va donner les restes aux autres. Les enfants disent « Ah non, ben une rue, sympa, ben pour moi ça veut dire qu'il y a de l'herbe au milieu. » Ah bon ? Ben ok, allons-y. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait dans cette rue. C'est une rue en face parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des buissons grands comme ça. Hein, j'ai pu photographier ça. Et c'est devenu, en fait, moi j'appelle ça la révolution copernique de l'aménagement urbain. C'est-à-dire que dans le monde avant, le milieu de l'espace public était l'endroit le plus dangereux. Et maintenant, le milieu de l'espace public est devenu, au contraire, l'endroit où on veut être. On a expulsé la Terre du milieu de l'univers et on a mis le Soleil. Et le Soleil, en l'occurrence, c'est l'humain. Ça, c'est une rue humaine. Si vous voulez amener les gens à se projeter dans un monde différent, il faut être ambitieux. Regardez deux fois la même situation, avec 40 ans d'écart environ. À gauche, le monde binaire, c'est aux Pays-Bas, hein, évidemment. À gauche, le monde binaire où il n'existe que deux modes de transport. Des piétons sur le trottoir, et puis les voitures sur la route, et les vélos, ben, Inch'Allah. Il trouvera son chemin sur le trottoir ou sur le bus. À droite, vous avez le monde ternaire, où il y a cette fameuse troisième domaine de voirie qui est né, où tout le monde peut faire du vélo sans problème. Là, vous avez le choix. Ils ont ajouté une liberté, et c'est pour ça que les enfants vont à vélo. Oublions maintenant cette deuxième image, qui est une évidence, n'est-ce pas? Quand on voit ça, on dit, ben, on ne va quand même pas habiter de nouveau là. Et en fait, imaginez que donc du coup, voilà, on oublie cette image-là, et on va prendre cette image-là, et on va voir la maire ou le maire de la ville, et on va lui dire, écoutez, j'ai une bonne idée, je propose qu'on mette des arbres à droite de ce bus, ensuite on va mettre le bus de l'autre côté des arbres, et on va mettre des vélos à la place du bus. Alors, que pensez-vous que ce maire va penser? Il dit, vous êtes tombé sur la tête, monsieur ou madame. Et pourtant, c'est ce qui a été fait. Donc, il faut vraiment... En fait, si on vous dit que ah, ça c'est une très bonne idée, vous n'êtes pas assez ambitieux. Il faut être très ambitieux pour vraiment changer le monde. Voilà, ça c'est pour notre temps. Une autre astuce, c'est, en fait, imaginez que vous ayez une route comme ça, le grand serpent noir dangereux dans toute sa splendeur. On a même mis une barrière, et on va dire, ah, on veut faire ça à la place. C'est deux fois la même situation, encore, c'est vraiment arrivé. Les gens, ils vont dire, on ne peut pas, pour plusieurs raisons. Mais entre autres, parce qu'on ne les a pas impliqués dans le changement. On leur a montré quelque chose qui semble tellement loin, qu'ils vont dire, ah, on ne peut pas, c'est impossible. Et pour les amener dans cette transition, en fait, je vous conseille de projeter une phase transitionnelle qui est celle-là, avec des travaux. Voilà, j'ai pu photographier ces travaux-là, j'ai pris cette image-là, et si on propose aux gens d'imaginer le monde à partir de cette situation un peu en friche, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, on parle de rien, là, on parle de... On est libre, on a libéré non seulement l'espace, mais aussi l'esprit. Et là, quand on est dans cette situation-là, vous pouvez lancer vos questions fameuses. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous avez envie? Ah, vous voulez de la verdure, des arbres, des enfants dans la rue, allons-y. Ben, si vous voulez tout ça, ben, il faut faire ça. Voilà, c'est comme ça que ça... Et ça prend du temps. Si vous voulez amener les gens à se projeter dans un monde différent, il faut changer le cadrage. Il faut arrêter de penser en termes de perte. D'habitude, quand on propose autre chose, quand on dit aux gens « Est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous supprime les places de stationnement ?» Ils vont tous vous dire non. Parce que ça va tuer le commerce, parce que comment je fais pour me déplacer, etc. Et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Si en revanche, vous dites « Est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous ajoute une liberté de déplacement qui sera en plus inclusive, parce que vos enfants vont pouvoir se déplacer tout seuls, avec un peu plus de verdure, hein, qui va augmenter la qualité de vie, et la qualité de l'air aussi, qui va libérer les façades de ce rideau métallique qui les cache
et qui ne les met pas en valeur, et vous pouvez toujours vous déplacer en vélo, en voiture. Est-ce que vous êtes d'accord? Et là, les gens, ils auront plus tendance à dire, bon, ok, on y va. C'est comme ça qu'on peut avancer. C'est comme ça que les Amsterdamois ont avancé. Dans les années 70, ça, c'est le Rijksmuseum aux Pays-Bas. C'est le musée national néerlandais qui, dans les années 70, était traversé par une autoroute urbaine. Et à un moment donné, ils ont dit bah, il fallait quand même que ça change. Et si on mettait à la place une pelouse et une piste cyclable? Alors là, ils n'ont pas fait l'erreur de se demander, comme je disais tout à l'heure, oui, mais où iront les voitures? Non, ils ont posé une autre question. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que ça va nous donner? Et en fait, ils ont rendu compte que ben, en fait, les gens vont pouvoir se déplacer autrement, donc il y aura moins de voitures. Ce serait beaucoup plus agréable parce que c'est le musée quand même. C'est là, les gens viennent du monde entier, ils vont pouvoir pique-niquer à côté. Ça va donc augmenter la valeur de l'immobilier, ça va tout améliorer. Eh bien, ok, allons-y. Ben, ils l'ont fait et c'est devenu le hotspot de la ville. Avec les lettres « I am Amsterdam », c'est là que les gens veulent aller. C'est comme ici sur la Comédie. C'est pareil, c'est un exemple exactement pareil. Donc il faut juste avoir ce courage-là. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est beaucoup plus facile d'en parler a priori, a posteriori, que a priori. Parce qu'en France, par exemple, si je prends le musée national français, c'est le Louvre. Est-ce que vous pensez qu'on peut transformer cette autoroute urbaine qui, elle aussi, traverse le musée par une énorme piste cyclable et une pelouse? Ben, les gens vont dire « Ah non, on ne peut pas. Oui, c'était possible aux Pays-Bas, mais chez nous, on ne peut pas parce que c'est différent. » Eh bien si, nous on l'a fait parce que chaque année, on organise la convergence vélo. C'est-à-dire, c'est un événement où des milliers de cyclistes se rassemblent, et bien ça donne ça. Et donc vous créez de facto cette grande piste cyclable. Donc en fait, c'est parce qu'on a mis entre parenthèses l'ordre normal pour libérer l'imaginaire. Et bien voilà, c'est possible. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, 150 mètres plus loin, c'est déjà fait. Ça, c'est la rue de Rivoli qui est de l'autre côté du Louvre. C'était une autoroute urbaine de 6 voies. Après, c'est devenu 5 voies parce que les voitures ont grossi. Et bien voilà, aujourd'hui, c'est devenu la plus grande piste cyclable de France. Ben pourquoi? Ben parce qu'une politique a eu beaucoup de courage de tout simplement faire ça et d'avoir cette vision. Et aujourd'hui, les gens, ils viennent à Paris pour regarder non seulement la Tour Eiffel et le Louvre, mais aussi, ils veulent voir la rue de Rivoli. Pourquoi? Pas seulement parce que c'est exceptionnel de voir ce spectacle, mais aussi pour voir que c'est possible. Moi, ce que je ressens quand je roule là, c'est incroyable qu'une politique ait fait cette démarche-là. C'est ça que je vous souhaite. Si vous voulez amener les gens à changer, c'est très difficile, hein, c'est beaucoup plus facile de le dire que de le faire, je le sais. En fait, il faut leur faire accepter que si vous voulez arriver quelque part, il faut accepter de quitter là où on est. Si vous voulez arriver là, mais dans ce cas-là, bye bye. On oublie le truc. En fait. Et ça, les gens, ils ont très peur. Donc, il y a un moyen de le faire, c'est qu'on va dire, bah, écoute, on va faire une autre situation, mais ça va être temporaire. Donc, si ça ne marche pas, hop, on va revenir. Temporaire, expérimentation. Et là, l'expérimentation le plus connue dans le monde, c'est celle-là. Et elle était très réussie. Parce qu'ils ont testé quelque chose, c'est la tours Eiffel qui sont construites, et les gens, ils étaient furax. Mais vraiment, et même quand il était terminé, en fait, il y avait des gens qui étaient fous de rage, des gens de grande autorité. Il y avait l'auteur Léon Blois qui disait « Ce lampadaire véritablement tragique, il y avait... » un collectif d'artistes et d'experts de l'esthétique qui disaient cette odieuse colonne de tôle boulonnée, c'est terrible. Et Gustave Eiffel, l'ingénieur qu'il a imaginé, il a une très belle réponse. Il a dit, il y a dans le colossal une attraction, un charme propre, auxquelles les théories d'art ordinaires ne sont guère applicables. Il a reconfiguré notre sensibilité. Il nous a permis de découvrir que, en fait, c'est vachement sympa, c'est très attirant. Et voilà. Donc si, mais pour ça, pour le faire, il faut faire cette expérimentation. Voilà, on l'a fait pour le vélo, parce que vous dites, oh, c'est quand même une conférence sur le vélo. Arrêtez-moi avec ces structures-là. Hop, vélo. Pendant le confinement, il fallait trouver des pistes cyclables parce qu'on était dans une situation où il fallait avoir 1,50 m de distanciation physique. Et tout d'un coup, c'était possible de faire des pistes cyclables partout. D'ailleurs, Montpellier a été la première ville de France où une coronapiste a été imaginée. Voilà, tous les compliments à Vélocité pour ça. C'est parce que les citoyens ont imaginé un truc qui n'existait pas. Et bien, pareil, en Île-de-France, on a fait ça. Ça, c'est le pont de la Défense, le pont de Neuilly, où traversent des milliers de gens par jour. C'est 2 fois 4 voies. Et bien, tout d'un coup, il y avait une piste cyclable. Des milliers de gens passent tous les jours pour y arriver. Comment pensez-vous que Martin Luther King a réussi un jour à rassembler 250 000 personnes, une après-midi de 1963, pour parler d'un monde différent? Comment il a... Est-ce que c'est parce qu'il avait un bon plan antiracial ou antiracisme? Est-ce que... Non, ce n'est pas parce qu'il avait un projet avec des mesures antiraciales. Non, il avait une vision d'une société où tout le monde avait sa place. Et il l'a décrit d'une telle manière, ça dure 17 minutes son speech, J'ai un rêve, et je vous conseille de l'écouter, qui fait que tout le monde aime ce qu'il dit. C'est tellement fort que, voilà, qu'on soit jaune, blanc, noir, tout le monde a adhéré à cette vision-là. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Les gens qui étaient là, en fait, ils n'étaient pas là parce que ce qu'ils disaient, ça leur semblait possible, mais ils étaient là parce qu'ils trouvaient ça tellement puissant et désirable, ce qu'ils disaient, qu'ils voulaient que ça devienne possible. Alors, comment créer cette vision d'une ville qui va plaire à tout le monde? Ben, il faut une ville autour d'autres valeurs. Là, vous avez encore 2 fois la même endroit dans une ville. Voilà. En haut, avec voiture, en bas, c'est devenu... ils ont refait revenir l'eau, ils ont créé la pelouse. Je montre des exemples bien hauts en couleur. Et en fait, ce sont des villes structurées autour de valeurs différentes. En haut, vous avez la ville de la vitesse, où il faut rouler vite pour arriver quelque part. À droite, en bas, en fait, vous avez la ville de l'accessibilité. Là, vous n'avez pas besoin d'une voiture parce que vous avez accès à la nature. Vous avez accès à l'eau. En haut, vous avez le monde de la machine, où il faut une grosse machine qui coûte très cher, que vous pouvez posséder à partir de 18 ans pour vous déplacer. À droite, c'est la ville humaine, où même un enfant peut se déplacer partout. En haut, vous avez la ville passive, où l'humain n'est pas valorisé, où il faut qu'il soit comme une patate dans une grosse machine avec un moteur pour se laisser tracter comme s'il ne pouvait pas marcher. Alors qu'en bas, vous avez la ville active, où les gens sont capables de marcher et où ils ont même envie de ça. En haut, vous avez la ville individualiste. Je ne suis pas anti-voiture, hein, je suis juste anti-politique tout voiture. En haut, c'est la ville de l'individualisme. Si vous vous mettez dans une voiture, n'oubliez jamais, c'est un refus de la société. En fait, parce que quand vous mettez dans une voiture, c'est vous dites, je veux arriver à ma destination et la ville, ça ne m'intéresse pas. Je veux zéro interaction avec la ville. Alors qu'en bas, vous avez la ville sociale. Dès que vous vous mettez votre pied dans cette situation-là, vous êtes... Bonjour, allez, bonjour, comme ici, quoi. Si vous étiez en voiture, je ne vous verrais même pas. Et puis en haut, vous avez la ville dépendante des énergies fossiles, et en bas, vous avez la ville qui est plus autonome. C'est-à-dire que si le prix du pétrole va augmenter, ils ne vont pas tous se tuer dessus avec des poignards dans des stations d'essence, comme ça s'est passé ailleurs. Alors, je vais faire sauter ça. Pour changer la ville, pour amener les gens à se projeter dans une autre ville, il faut travailler sur le regard. Ça, c'est un tweet The Commute de Paris, et la phrase dit « quart de touriste devant l'opéra ». J'adore ce tweet, j'adore cette image, parce que vous voyez juste un groupe de gens sur des vélos qui sont là en train de regarder l'opéra. Ça veut dire qu'ils voient l'avenir dans le présent, parce que l'avenir est déjà là. C'est un bus, sauf que c'est un bus sans bus. Et donc, on peut arriver à créer cette ville du futur en assemblant ce petit morceau de futur. Là, par exemple, c'est le pont justement devant le Louvre, et on va le transformer, mais on a besoin d'un accélérateur. Et cet accélérateur, c'est les Jeux Olympiques de 2024. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va déjà dire stop aux voitures individuelles, on va élargir énormément les trottoirs, on va créer des olympistes, 415 km, et puis on va réserver les milieux au bus. Pourquoi ? Parce qu'un bus, ça transporte 50 fois plus de personnes qu'une voiture. Et c'est comme ça qu'on va assembler le futur. Et ça peut aller très, 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 très loin. Aux Pays-Bas, ils sont en train de construire la ville avec zéro emplacement pour la voiture. La ville où ils vont, qui s'appelle Merwede, pour 12 000 habitants, avec zéro place de stationnement pour les voitures. Les seules, bah, en fait, elles sont autour de la ville, elles coûtent très cher, et il n'y en a qu'une pour 4 ménages. Donc voilà, il faut vraiment le vouloir pour l'avoir. Là, les seuls stationnements dans cette ville-là, ce sera du stationnement vélo et du stationnement piéton. Du stationnement piéton, c'est quoi ? Ben, c'est des bancs. Par exemple, voilà, les personnes âgées, ils ont besoin de s'arrêter. Pourquoi on voit peu de personnes âgées dans la rue ? Ben, parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir. Donc, c'est possible. Et la meilleure façon, bien sûr, de se projeter dans un monde différent, ben, c'est d'y aller. Allez aux Pays-Bas. Prenez pas l'avion, mais le train. Donnez-vous un peu de temps. Allez voir directement pour vivre un peu cette situation différente, parce que c'est la meilleure façon de goûter. Alors, je peux vous décrire la recette de la vie cyclable, mais ça ne va pas vous intéresser. Et moi, vous voulez savoir c'est quoi le goût de cette tarte qui est la société cyclable. Et je vais terminer en citant une phrase. Ça, c'est encore une situation du quotidien aux Pays-Bas, dans la préface de mon livre qui a été écrit par Olivier Schneider, qui est le président de la FUB. Et Olivier Schneider, il a écrit une très très belle préface dans laquelle il réagit à ce problème qu'on a tous quand on pense aux grands problèmes auxquels nous devons faire face, voilà, avec l'énergie, avec le climat, etc. Et il a dit, en fait, on a l'impression que notre impact individuel est presque mathématiquement nul. Et pour se remotiver, il faut des victoires intermédiaires, symboliques, sur des sujets clés, visibles, qui métamorphosent le quotidien. Métamorphosent le quotidien. Le vélo, ce n'est pas de la rigolade, ça métamorphose le quotidien. Ce ne sont pas des petites victoires, ce sont des victoires essentielles pour maintenir l'espoir. Espoir sans lequel les objectifs globaux ne seront jamais atteints. C'est-à-dire qu'il faut ça pour qu'on arrive à réduire nos émissions. Le vélo est un sujet qui permet un tel mécanisme, l'exemple motivant de la transition réussie rapidement. Merci.